Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Après avoir résolu la plus vieille énigme de l'humanité, c'était hier, et avant de s'intéresser à celle du roi sans tête, ce sera demain. Franck Ferrand rouvre aujourd'hui sur Europe 1 le dossier de la mort étrange d'un grand tsar. Nous sommes toujours, vous l'avez compris, dans notre semaine spéciale Mystère de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. J'adore cette semaine spéciale, pour tout vous dire, je me demande si on ne devrait pas la prolonger. D'ailleurs, on la prolongera un peu, puisque lundi prochain, nous parlerons d'un des plus grands mystères de l'histoire contemporaine, puisque nous parlerons de la mort du président Kennedy. Alors, plus forte que l'affaire Louis XVII, plus corsée sans doute que le secret de la comtesse des ténèbres qui nous occupera vendredi, voici aujourd'hui l'un des cas les plus passionnants que l'histoire puisse proposer à nos petites cellules grises, comme dirait Hercule Poirot. Vous vous rappelez, Julia, que nous avons récemment parlé du tsar Alexandre Ier de Russie.
Oui, tout à fait. C'était il y a quelques semaines à l'occasion du bicentenaire, je crois, de la campagne de Russie.
Voilà, exactement. Et d'ailleurs, Marie-Pierre Rey, qui est notre invitée aujourd'hui, l'était déjà à l'époque. On avait parlé de l'incendie de Moscou, de la Bérézina, de la retraite de la Grande Armée. L'adversaire irréductible de Napoléon dans cette campagne de 1812, c'était le tsar Alexandre Ier. Officiellement, cet empereur de Russie est mort en 1825, au cours d'un séjour en Crimée. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Et officieusement, si l'on en croit des gens bien renseignés, cette mort n'aurait été qu'une mise en scène pour permettre au tsar de changer de vie. Alors, mythe ou réalité, vérité occultée ou légende romanesque, eh bien, la réponse dans l'heure qui vient.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
En 1836, c'est le tsar Nicolas Ier qui règne en Russie. Son frère aîné, le tsar Alexandre Ier, est mort depuis 11 ans. À l'automne de cette année-là, donc 1836, hein, en France, on est sous le règne de Louis-Philippe. À l'automne, dans le gouvernement de Perm, aux confins de la Sibérie, un voyageur à cheval s'arrête dans un village et demande un maréchal ferrant. Il veut faire changer les fers de sa monture. Ils sont très usés, il faut dire. L'inconnu est un homme de haute taille, d'une soixantaine d'années, aux yeux très bleus, aux traits réguliers. Il est visiblement pauvre, il porte une barbe blanche, il est presque sourd d'une oreille. Comme il n'a pas un sou vaillant, le maréchal le bouscule un peu, le ton monte, vous savez comment ça peut se passer, des voisins s'interposent, on presse le voyageur de questions, il reste muet comme une tombe. Alors on appelle le doyen du village et bientôt la police s'en mêle. Le cavalier errant n'a pas de passeport intérieur, il affirme qu'il se nomme Fyodor Kouzmitch. Il n'en dira pas davantage. Il est convaincu de vagabondage. On plaisante pas à l'époque en Russie, hein. Il passe devant un juge. Les lois de l'époque sont d'une grande sévérité. Voilà le pauvre homme condamné malgré son âge à 20 coups de fouet et à la déportation dans le gouvernement de Tomsk, plus près, plus loin là-bas, à l'est, en Sibérie. Il est affecté à une distillerie d'État. Pendant 5 années, Fyodor Kouzmitch va donc travailler en tant qu'ouvrier parmi d'autres, parmi des gens très pauvres, proches du dénuement, d'abord dans cette distillerie et puis au bout de 2 ans et demi dans une mine où le labeur est encore plus dur. Or, la sagesse de ce brave homme à barbe blanche, la qualité de son élocution, sa culture, ses bonnes manières, sa connaissance des règles de l'hygiène l'amènent très naturellement à devenir un père pour ces gens simples. Il prodigue aux paysans des conseils en agriculture, il permet de faire des progrès en matière d'hygiène, il va jusqu'à donner son avis aux contremaîtres, aux médecins. Mais plus que tout, c'est la foi de cet homme, c'est sa piété ardente qui fascine son entourage. Il devient ce qu'on appelle en Russie, vous savez, un starets. C'est difficile à traduire, disons c'est une sorte de guide illuminé, un vagabond de Dieu. On l'aime, on le vénère, on fait les corvées à sa place, on va même jusqu'à se cotiser pour lui permettre de vivre à part dans une cahute minuscule. Peu à peu, sa renommée va parvenir aux oreilles de l'évêque d'Irkoutsk qui l'envoie chercher. C'est assez frappant parce que après cette première entrevue, c'est sa grandeur elle-même qui fera le déplacement jusqu'au saint homme, car c'est ainsi qu'il est considéré un saint homme. La rumeur ne va pas tarder à se répandre de Fyodor Kouzmitch. À propos de ce personnage, on pense qu'il est un dignitaire de l'Église, une sorte d'évêque en rupture de ban. Il parle si bien, y compris en français et en anglais. Il paraît connaître tant de choses, y compris en ce qui concerne Saint-Pétersbourg et ses palais et les usages de la cour. Et si Un jour, un voisin chante sous sa fenêtre un ancien hymne au tsar Alexandre. Kouzmitch, à ce moment-là, sort de sa tanière, il a les larmes aux yeux et il prie l'homme d'aller chanter ailleurs. Et si, à une voisine qui un soir lui demande le nom de ses parents, pour faire dire des messes à leur mémoire, il répond « Si je te dis leur nom, le mien sera le même et la malignité terrestre triomphera. » Et si le Staretz était un membre exilé de la famille impériale? Un jour, dans un village voisin, un soldat en garnison aperçoit le vieil homme. Il paraît frappé par la foudre. Il s'approche de lui, le scrute de près et tombant à genoux. « C'est le tsar !» dit-il en se jetant aux pieds de Fiodor Kouzmitch. « Écoutez-moi, c'est notre tsar Alexandre, il n'est pas mort !» Le Staretz le relève avec douceur. « Pourquoi me nommes-tu ainsi ? » l'interrompt-il d'une voix soudain chargée d'autorité. « Je ne suis qu'un vagabond. » « Alors tais-toi. Si l'on t'entendait, on te jetterait en prison et je serais, moi, contraint de partir d'ici. Alors je t'en prie, tais-toi. » Le soldat s'est tu, mais pas les autres. Pour de très nombreux contemporains à travers la Russie, Fiodor Kouzmitch est le tsar Alexandre. Le 20 janvier 1864, donc près de 40 ans après la mort d'Alexandre Ier, si l'on en croit les dictionnaires et les livres d'histoire, le vieillard si bon va finir par s'éteindre. Mais pas sa légende. Des milieux populaires, cette croyance ou cette certitude va bientôt passer au milieu cultivé. Le grand Tolstoï lui-même écrit un roman sur la survie d'Alexandre. De nombreux historiens vont apporter leur pierre à l'édifice, réunissant un faisceau d'indices impressionnants. Faisceau d'indices que nous allons décrypter ensemble avec mes invités. Auparavant, si vous le voulez, j'aimerais que nous revenions sur deux ou trois épisodes clés de la vie d'Alexandre, car sans connaître ces épisodes, on ne peut pas véritablement comprendre cette histoire.
L'ouverture de La Dame Blanche, un opéra de François-Adrien Boieldieu. À tout de suite sur Europe 1 pour une plongée au cœur de l'histoire d'Alexandre Ier.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec aujourd'hui Jean Descartes, journaliste, écrivain, historien, auteur notamment de la saga des Romanov, de Pierre le Grand à Nicolas II, aux éditions Plon, ressorti chez Pocket. Et puis Marie Pierret, professeure d'histoire russe et soviétique à l'université parisien Sorbonne, auteur quant à elle d'Alexandre Ier dans la collection Grande Biographie de Flammarion. Franck.
Bonjour à tous les deux, vous êtes des habitués de cette émission, c'est plus facile et c'est très agréable de vous recevoir.
Bonjour. Bonjour.
Alors, je disais que sans un certain nombre d'épisodes de la vie de ce tsar Alexandre Ier, on ne peut pas comprendre qu'il ait éventuellement voulu, c'est une hypothèse, on verra ce qu'il faut en penser, qu'il ait éventuellement voulu mettre sa propre mort en scène pour se retirer et devenir une sorte d'homme de Dieu. Le premier, alors disons peut-être d'un mot Jean Descartes, qu'il a été quand même le petit-fils favori de l'impératrice Catherine, oui. Qui lui a fait donner une éducation remarquable.
Et qui voulait en faire son
successeur d'ailleurs, elle aurait aimé.
Son héritier, elle disait c'est le divin nourrisson. Elle était absolument séduite, elle avait pas tout à fait 50 ans quand il est né, et ça a été une révélation pour elle, l'arrivée de ce petit garçon. Alors comme on sait, c'est pas ce qui va se passer.
Et c'est Paul Ier, son
Paul
père.
Paul Ier, son père, qui est donc maniaque de l'ordre prussien, de la discipline, qui croit...
Qui va enrégimenter la Russie, hein,
il faut dire. Qu'on va l'assassiner partout, c'est ce qui finira par se produire, justement. Veut mettre la Russie à l'heure prussienne.
Alors venons-en à cet assassinat.
Ce malheureux, Alexandre, va, dans le fond, être entouré d'un climat de conspiration généré déjà par son propre père, qui voit des comploteurs partout. Et on va dire, dès 1799, à Alexandre, qu'il faut se débarrasser de son père. Il refuse dans un premier temps et ensuite d'une façon, on va dire, plus ou moins passive, devant les débordements, les excès de son père, il sera amené tacitement, passivement à admettre un complot contre son père qui a lieu en 1801.
Alors cet assassinat...
Parce qu'on lui a fait croire que son père voulait l'éliminer aussi. Enfin,
oui, bien sûr, il y a toute une espèce de complot de palais assez complexe, d'ailleurs.
Dans le château Michel.
Avec le régiment Preobrajensky, qui est donc un peu la garde prétorienne des tsars de Russie. Alors, ce qui est extraordinaire, Marie-Pierre Rey, c'est que cet assassinat a lieu dans la chambre qui se trouve au-dessus de celle d'Alexandre, et le tsarevitch entend les bousculades, il entend, semble-t-il, tomber le corps de son père, alors qu'on lui avait dit qu'on ne ferait pas de mal à son père, et finalement, on tue son père au-dessus de sa tête, disons-le.
Oui, voilà. Alors, il a 19 ans. Il faut repenser à cela aussi en fonction de son âge, de sa personnalité. À 19 ans, il n'est pas vraiment mûr pour la politique, donc il est resté en marge, il a laissé son père monter sur le trône, mais il se pose déjà des questions. Et il n'adhère pas à la façon dont son père conduit la Russie. Et il est de plus en plus tourmenté par cette façon de conduire les affaires, ce qui le pousse effectivement à donner une sorte d'accord tacite à la déposition. Car dans son esprit, son père sera déposé, mais en aucun cas assassiné. Et c'est pour lui un traumatisme énorme qu'il va en réalité porter jusqu'à la fin de sa vie, que la mort brutale de son père étranglé, comme vous l'avez rappelé, au-dessus de sa chambre, avec cette confusion énorme et ce choc.
Nuit, enfin tout ça se passe.
Voilà.
Et lui est tout de suite poussé, alors là, c'est au sens quasiment physique du mot, il est poussé sur le trône. Il faut que très vite, il n'a même pas le temps du deuil et il est complètement sidéré de ce qui vient de se passer, et il faut qu'il assume pleinement le pouvoir, car on est en plein coup d'État, évidemment.
Absolument. Et il y a même un des meneurs du complot qui lui criera « Allez régner !» Et c'est vraiment une violence, évidemment, que ce fait-là qui propulse ce jeune homme sur le trône de Russie après un double meurtre, si l'on peut dire, qui est un parricide et un tsaricide, parce que il vient finalement de participer à la mort du tsar.
Physiquement, alors psychologiquement, on comprend qu'il ait été torturé. Toute sa vie, dit-on, il sera poursuivi par cette histoire. Quand je dis toute sa vie, c'est toute sa vie officielle. Hein,
voilà.
Je parle jusqu'en 1825. On sait qu'à la date anniversaire de la mort de son père, il était tous les ans dans un état de prostration. Enfin, il versera plus tard, on va le voir, dans le mysticisme,
oui,
dans une religiosité exacerbée. Mais avant cela, il faut peut-être décrire un peu ce personnage sur un plan physique, que c'est un très grand et très bel homme.
Il est très beau, il sera évidemment considéré comme un très très bel homme.
Une sorte de géant, oui.
Absolument, voilà. Y compris par Napoléon d'ailleurs,
oui,
hein,
oui.
Qui le trouvera particulièrement élégant, beau. Il parle français sans accent, c'est lié à l'extrême belle éducation qu'il a reçue de sa grand-mère et du précepteur Laharpe, mm-hmm, que Catherine avait choisi. Voilà. Et effectivement, il séduit énormément, non seulement les femmes de sa cour, mais voilà, son ennemi.
Jean, du point de vue de la personnalité, peut-être,
la personnalité,
du caractère.
Oui, je crois que cet événement tragique, de toute façon un parricide, plus ou moins consenti, plus ou moins accepté, se greffe sur un caractère qui est très complexe, très contradictoire. Alexandre est un homme qui sera plein de bonnes idées libérales, mais qui n'arrivera jamais
à
les imposer. Mmh. C'est un velléitaire, c'est un irrésolu. Et, il fera rien pour obliger la noblesse à accepter ses réformes. Et on va observer, je pense que Marie-Pierre Rey l'a très bien démontré, et je souscris moi aussi à la saga des Romanov à ça, il a une façon de traiter Bonaparte qui est bizarre, tantôt pour, tantôt contre, une sorte de fascination. Donc il n'y a pas de logique de continuité, on a déjà un esprit perturbé.
Alors quelle est sa vie, si je puis dire, privée, et notamment sa vie religieuse? On va passer très vite, hein, si vous voulez bien, sur la dimension politique et sur le rôle d'adversaire de Napoléon, puisque ça, ce serait un tout autre sujet. Je veux qu'on reste sur l'homme lui-même, vous allez voir qu'il nous réserve encore quelques surprises.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous poursuivons sur Europe 1 notre découverte du personnage Alexandre Ier de Russie.
Oui, c'est Alexandre Ier dont on se demande s'il est véritablement mort en 1825. Alors à l'époque où il règne, qui est en France celle de l'Empire et de la Restauration, en gros, on est habitué à une débauche de luxe, à une frénésie de somptuosité. Or lui vit dans une sorte de quasi-dépouillement, il faut le dire. Même si les palais impériaux russes sont sublimes, évidemment. Mais c'est un homme simple de goût, Marie-Pierre Rey.
Oui, il ne porte quasiment jamais de montre et pas de bijoux. Mm-hmm. Il se déplace en attelage très simple, qui contraste avec le luxe extraordinaire du règne de Catherine II et le luxe de Napoléon lui-même. Mm. Alors, c'est un homme simple, de caractère. Et ça aussi, c'est l'expression des valeurs que lui a transmises Laharpe, qui était très attachée à ce qu'un grand souverain reste un homme simple et en particulier proche de ses sujets. Donc c'est quelque chose qui est très ancré chez lui. Alors, en ce qui concerne son caractère, il est vrai qu'il peut apparaître comme velléitaire, et c'est un élément qui sera...
Un peu irrésolu parfois, disons.
Irrésolu, mais à contrario, c'est quelqu'un qui peut être très entêté.
Oui. Et à des moments clés, voire d'une certaine dureté. Hein.
À des moments clés de l'histoire de la Russie, en particulier en 1812, il va se fixer,
voilà,
il se fixe une règle de conduite contre vents et marées, il imposera cette règle, et de fait, elle permettra de sauver le pays.
Alors, il épouse une très jolie jeune femme, Louise Augusta de Bade, Jean Descartes.
Oui, et je crois qu'il faut préciser que, bon, il y aura des coups de canif dans le contrat de mariage.
C'est le moins qu'on puisse dire,
Mais il faut tout de suite envisager l'aspect dramatique de sa vie familiale. Parce que dans sa vie personnelle, ce personnage complexe, pas toujours très sûr de lui, autoritaire, mais qui n'arrive pas à aboutir, comme on l'a dit, a de nombreuses épreuves dramatiques. Il a deux filles avec son épouse Elisabeth, Marie née et morte en 1799, donc qui a vécu que quelques mois.
Elisabeth c'est son nom
Elisabeth,
russe. Hein.
Voilà, oui, c'est son nom.
Elle a été rebaptisée comme toutes
les princesses. Et alors il a une fille qui s'appelle aussi Elisabeth, qui est née en 1806 et morte en 1808. Et puis il a une fille naturelle, Sophie, avec sa maîtresse Marie Narychine, qui meurt à 20 ans en 1824. C'est-à-dire, le drame du tsar, il n'a aucune descendance. Ses trois enfants sont morts. C'est donc quelque chose qui ajoute un poids du chagrin à ce que nous avons présenté dans le cas d'un remords éventuel.
Son héritière ultime, en 1824, il la perd. Et on pourrait imaginer, alors je suis déjà dans la perspective de ce qui nous attend, on pourrait imaginer que ça a été pour lui le choc ultime qui l'aurait décidé à renoncer au trône.
Alors c'est un des éléments très très perturbateurs dans sa vie. C'était sa dernière fille, il était extrêmement attaché, elle avait une vingtaine d'années. Oui. Elle meurt de façon épouvantable en quelques mois et il en a été profondément traumatisé. Et puis, autre chose, la même année, Saint-Pétersbourg est dévasté par une crue extraordinaire de la Neva qui va causer beaucoup de destruction et beaucoup de pertes humaines. Et il en est là aussi profondément marqué.
Il ne faut pas oublier qu'on est dans une politique, à l'époque, une politique administrative et fiscale d'une grande dureté. Hein, il y a une pression terrible. Et que le tsar connaît des records d'impopularité. C'est-à-dire que le petit père du peuple, on a toujours ces images des tsars qui sont adulés par les foules russes et tout. Là, on c'est pas du tout le cas. La foule se détourne de son passage quand il va quelque part. Il est détesté par la population.
Alors, autant il a été aimé pendant la première période de son règne, autant, et de fait jusqu'en 1817-18, autant après, la fin de ce règne, la fin officielle entre 1818 et 25, est marquée par une impopularité croissante. Il y a la pression des impôts, il y a aussi le système des colonies militaires mis en place par son ministre Arakcheyev, auquel il donne de plus en plus de pouvoir. Et Arakcheyev est un homme très dur qui mène la Russie à la trique, pourrait-on dire, alors qu'Alexandre, à ce moment-là, se détourne du pouvoir. Et de fait, l'empereur est de plus en plus impopulaire, alors même qu'il se détourne de l'avenir de son pays.
Très impopulaire et en même temps très mystique.
Très mystique. Et alors, vous savez qu'en Russie, c'est un pays où les symboles sont très forts, les légendes, les personnages. Et je dis tout de suite que c'est un pays où les revenants sont très
fréquents, sont nombreux,
c'est très important. Et alors, vous parliez, Marie-Pierre, de la crue de la Neva. C'est un symbole terrible pour lui parce que au moment de la campagne de Russie, avant que Kutuzov ne soit rappelé aux affaires, au commandement, la légende pétersbourgeoise disait que Pierre le Grand était descendu de son cheval pour admonester le tsar en disant qu'il conduisait très mal la guerre. Donc, il voit comme un châtiment, une punition de cette belle ville impériale dévastée par les eaux avec des centaines et des centaines de morts. Donc, les symboles sont de plus en plus lourd.
Nous avons 30 secondes pour parler de la baronne de Krüdener et de son influence sur l'esprit du tsar. Hein. C'est
alors, extrêmement importante, il l'a rencontrée en 1814 et de nouveau en 1815. Elle est favorable à un piétisme œcuménique d'ailleurs, un piétisme très
mystique.
Une
religion
mystique.
Extrêmement
fervente. Avec des contacts avec Rome. Oui.
Et il va être séduit par ce qu'elle lui propose, c'est-à-dire en gros de régénérer l'Europe, de sauver le continent européen. Et comme depuis 1812, durant la campagne de Russie, il est de plus en plus sujet à des crises de mysticisme. Je dirais que cette rencontre arrive au bon moment.
Il y a quelque chose d'étonnant, c'est que quand il arrive à Paris, quand même, après 1815, il va faire, 1815, il va faire célébrer une messe orthodoxe sur la place Louis XV, la place de la Concorde actuelle, donc dans une espèce de syncrétisme spectaculaire.
Oui, il a cet élan mystique, cet attrait pour la religion. Oui. Vous avouerez que tous les éléments sont en place pour ce qui va arriver maintenant.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui revient maintenant sur la mort officielle d'Alexandre Ier.
Eh oui, mort officielle, on va voir si c'est sa vraie mort. Le 20 octobre 1825, Alexandre Ier se trouve en voyage, il effectue tout un voyage dans le sud de la Russie, hein, en Crimée. Et la destination a été choisie pour permettre le repos du tsar et de l'impératrice. L'impératrice Elisabeth qui est fatiguée. Elle ne rejoindra d'ailleurs son mari que quelques jours après sa propre arrivée, ce qui va lui permettre à lui, pendant ce temps-là, d'effectuer un certain nombre de visites. Enfin, il fait son métier de tsar, hein. Il inspecte des hôpitaux, des arsenaux, des ports, des forteresses. Il s'arrête à Orianda, qui est réputée pour sa situation, pour la splendeur de son paysage. Et devant ce paysage extraordinaire, on le voit rester un long moment silencieux. Il va dire à son ami, le prince Volkonsky, qui va ensuite le consigner dans son propre journal, je cite le tsar, « Je vais bientôt déménager en Crimée et y vivre comme un simple mortel. J'ai servi 25 années, on donne aux soldats son congé après 25 ans. » Donc vous voyez que c'est quand même bon. Et plus tard, c'est l'impératrice qui écrira à sa mère, la margrave, « Oui, maman, c'est Orianda que s'appelait la campagne qu'il avait achetée en Crimée. Il avait fait faire le plan d'une maisonnette pour nous deux seulement. Nous devions y vivre. » Vous voyez quand même qu'il y avait... Là, il y a un projet incontestable de la part du tsar. Le 27 octobre, l'empereur va prendre froid. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans la version officielle. On dit qu'il a voulu faire une excursion solitaire alors que la nuit commençait à tomber. Vous savez que se levait ce vent froid terrible de ces régions. Il a fait comme par hasard, l'escapade était jusqu'au monastère Saint-Georges, près de Sébastopol. Toujours cette dimension religieuse, évidemment. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que sur ce voyage en Crimée, sur les derniers jours de la vie d'Alexandre Ier, on dispose de trois témoignages. Celui du docteur Tarassov, celui, ce qu'on appelle la relation de la dernière maladie d'Alexandre, signée par Volkonsky, avec le docteur Vili, qui va jouer un rôle important, et puis le témoignage de l'impératrice Elisabeth elle-même. Le tsar va rejoindre l'impératrice, ça c'était prévu, il doit la rejoindre Taganrog, pardon, je confonds, j'intervertis toujours les lettres, à Taganrog. Il fait le chemin en mauvaise santé, hein, depuis qu'il a pris froid, il a la fièvre. Son médecin, Willy, qui est d'origine britannique, constate même un paroxysme de fièvre et il va conseiller au tsar de s'arrêter, de ne reprendre la route que le lendemain. Seulement, on n'est pas très loin, on est à 90 verstes de Taganrog. Et l'empereur décide d'aller rejoindre l'impératrice. Ça aura donc lieu le 5 novembre. Mais à partir de ce moment-là, on peut dire qu'il va très mal. Ça, c'est officiel. Voilà ce que dit Elisabeth, hein, donc l'impératrice du fameux voyage de retour. Il revint de son voyage vers 7 heures du soir. Comme il tardait plus qu'à l'ordinaire à entrer chez moi, l'idée me vint qu'il pouvait être mal. J'éprouvais une angoisse et une tristesse vague. Lorsqu'il entra, ma première question fut... Vous portez-vous bien, nous sommes quand même au 19e siècle. Il me dit que non, qu'il avait la fièvre depuis 2 jours, qu'il craignait d'avoir gagné la fièvre de Crimée. Je le fis asseoir, il brûlait. Je l'engageais sans peine à aller se coucher de bonne heure. C'est par ce premier jour après le voyage fatal que commencent les notes écrites au jour le jour par la souveraine qui nous permettent de suivre la maladie du tsar entre le 5 et le 11 novembre. Ce qu'il faut dire, c'est que les trois relations dont nous disposons de la maladie du tsar sont bourrées de contradictions et qu'il est impossible à partir de ces trois récits d'établir un récit cohérent, correct de cette maladie. Le 14, il semble néanmoins, le 14 novembre donc, hein, 1825, il semble que le tsar se sente mieux. Alexandre veut se lever et simplement une fois qu'il est debout sur ses jambes, il tombe en syncope et là, il ne se relèvera plus. Le lendemain, à la demande de l'impératrice, on fait venir un prêtre, le père Fyodotov, qui, après avoir exhorté son souverain à prendre toutes sortes de remèdes, qu'il s'obstine à refuser. Pendant toute sa maladie, Alexandre va refuser de prendre le moindre médicament. C'est quand même très intéressant, ça aussi. Quand on est malade, qu'on a pris un coup de froid, qu'on vous propose des remèdes, c'est étrange que vous les refusiez.
le prêtre va lui donner la communion. Mais alors là, c'est assez intéressant aussi parce qu'Alexandre Ier va recevoir la communion, mais personne ne l'a vu recevoir l'extrême onction. Vous avouerez que c'est assez extraordinaire. Et là où ça devient encore plus extraordinaire, c'est que le tsar finit par mourir. Le 18 novembre, il perd connaissance à plusieurs reprises. Il sombre dans un demi-coma, en tout cas pour les quelques très rares témoins qui sont autorisés à aller jusqu'à son chevet. L'impératrice Élisabeth est là. Si l'on en croit ce qu'elle va rapporter elle-même, il revient à lui au dernier moment. Il ne demande pas de prêtre, ce qui quand même devient vraiment de plus en plus étonnant. Et il dit simplement « J'ai envie de dormir », ce seront ses dernières paroles, puisqu'officiellement, le tsar Alexandre Ier de Russie expire le jeudi 19 novembre vers 11h du matin. Et à partir de là, il va y avoir toute l'histoire assez extraordinaire du transfert de sa dépouille jusqu'à Saint-Pétersbourg. Et vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises. La mort de ce tsar est littéralement ponctuée d'incohérences et même, disons-le, d'invraisemblances.
Extrait sur Europe 1 du concerto pour harpe de François-Adrien Boieldieu.
Il y a tout de même eu une autopsie. Est-ce qu'on peut préciser ça, Marie-Pierre?
Oui, il y a eu une autopsie et qui a posé problème d'ailleurs, puisque les comptes rendus de cette autopsie ne sont pas cohérents entre eux, ce qui déjà évidemment pose problème à l'historien.
Alors le premier point, je crois, Jean c'est Descartes, que jamais un tsar n'est mort aussi loin de Moscou. Oui. Saint-Pétersbourg, ça fait près de 3000 kilomètres. 3 mois pour le retour du corps. Dans quel état, malgré l'embaumement, on l'imagine. Et je dirais tout de suite que la clé de l'énigme qui est posée, c'est que contrairement à la tradition orthodoxe russe, le corps n'a pas pu être exposé cercueil ouvert et pour cause. Donc à partir du moment où le peuple, la foule, n'a pas vu le tsar mort, le tsar n'est pas mort. Oui. C'est la naissance
de la légende.
Légende,
voilà. Mais ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est que au moment où le convoi funèbre arrive à quelques lieues de Saint-Pétersbourg, l'impératrice mère est venue en avant, elle est venue à la rencontre évidemment du convoi funèbre, elle se fait ouvrir le cercueil,
et elle
va avoir cette phrase qui est complètement incongrue, en plus elle le dit à voix très forte,
je le reconnais.
Oui, c'est mon fils, c'est bien mon fils, je le reconnais, mais on se doute bien
avec
que c'est son fils.
Avec un visage décomposé, ce qui prouve déjà qu'il y avait quelque chose d'anormal, de suspect, d'étonnant.
Oui, parce qu'il y avait comme une sorte de volonté d'affirmer que c'était bien lui, alors que si ça avait été naturellement lui, on n'aurait pas éprouvé le besoin.
Parce que la famille impériale l'avait vu, mais il fallait convaincre la population, la foule,
alors,
selon la tradition russe.
La question qui se pose, est-ce que Fyodor Kouzmitch était en vérité la survivance du tsar Alexandre Ier? C'est ce que nous allons essayer de savoir dans un instant.
Nous poursuivons sur Europe 1 notre chasse au mystère historique avec aujourd'hui une énigme particulièrement coriace, la mort d'Alexandre Ier.
Et oui, Alexandre Ier de Russie, mort officiellement à Taganrog, donc on est en Crimée, enfin on est dans le sud de la Russie en 1825, et que certains prétendent avoir vu vivre jusqu'en 1864 sous le nom de Fyodor Kouzmitch, donc cette espèce de starets, cet illuminé de Dieu qui se trouvait à l'époque en Sibérie. Et nous en parlons avec nos deux invités, Jean Descartes, auteur de la saga des Romanov, de Pierre le Grand à Nicolas II chez Plon, et Marie-Pierre Rey, auteur d'Alexandre Ier dans la collection Grande Biographie chez Flammarion. Et vous avez d'ailleurs tout un épilogue, Marie-Pierre Rey, alors dans une biographie aussi documentée, sérieuse, j'allais dire universitaire, ça n'est pas un gros mot, que la vôtre. C'est assez étonnant de voir que toute la fin pose la question de l'énigme et vous ne vous prononcez pas, du reste.
Voilà, j'ai souhaité en fait évoquer cette question parce qu'elle est extraordinaire, et en mettant en avant les arguments des uns et des autres. Parce qu'en réalité, s'il y a énigme, s'il y a mystère, c'est précisément parce qu'il est très difficile finalement de donner une réponse définitive au vu des documents qui sont les nôtres.
Alors, avant peut-être d'entrer dans le détail des arguments pour et des arguments contre, il faut peut-être que nous rappelions que très tôt, cette légende a pris corps et qu'elle est, elle s'est institutionnalisée par la voix du plus grand écrivain russe quand même, hein, c'est Tolstoï lui-même.
Oui, Tolstoï qui a écrit en fait un texte qui intitule Les Mémoires de Fyodor Kouzmitch, dans lesquels il explique en réalité quel cheminement a conduit Alexandre à changer d'identité et finalement à mettre en scène sa propre mort. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que dans toute la période tsariste, officiellement, on croit à cette version, au point que c'est quelque chose que j'ai découvert dans les archives et que j'ai trouvé très très intéressant. Les archivistes à Saint-Pétersbourg, avant 17, donc avant la Révolution, classent dans un même dossier tout ce qui a trait au fond d'Alexandre, au fond officiel, et puis ce qui relève de Fyodor Kouzmitch, ce qui est quand même extraordinaire.
C'est même plus extraordinaire que ça, puisqu'Alexandre II, à partir de 1864, se met à assister aux offices à la mémoire d'Alexandre Ier, alors qu'aucun tsar, et pas lui-même du reste, n'y avait assisté jusqu'en 64. C'est
étonnant.
Oui,
c'est exact. Et la tombe de cet inconnu, supposé tsar, devient elle-même un lieu de dévotion, et on peut dire que ce soupçon, ce mythe, va empoisonner la vie de la cour, de la famille impériale, jusqu'à Nicolas II. Et alors, j'ajoute que ce qui est assez étonnant dans ce pays, j'insiste, où les revenants sont, si j'ose dire, très fréquents.
Oui, il y a eu le faux Dimitri,
voilà,
oui. Etc.
Bon, bien sûr. En 1921, c'est-à-dire dans le chaos de la guerre civile entre les Blancs et les Rouges, déjà, on commence à parler de la tombe d'Alexandre Ier, qui recèlerait un mystère, à savoir qu'elle serait vide. Et en 1926, deux ans après la mort de Lénine, Staline, exaspéré par ces rumeurs qui continuent, malgré l'installation du régime bolchevique et la reconnaissance de l'Union soviétique, fait ouvrir la tombe en question, qui est vide. Donc, si
la
vous voulez,
tombe est vide.
Alors, si vous voulez, le problème effrayant, c'est que, dans le fond, il y a une espèce de hasard. C'est à peu près au même moment que l'énigme Anastasia, qui, nous le savons aujourd'hui, est une imposture, commence à circuler, parce qu'il y avait un point commun. On dit Anastasia connaissait des choses que seule une grande duchesse aurait pu connaître. Et on rappelle que Kouzmitch connaissait des choses que seul un tsar ou quelqu'un familier de la cour. Donc ça entretient ce mythe.
Mais alors, voilà. Ce Fyodor Kouzmitch, que savait-il réellement? Parce que c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on a beaucoup de légendes à son propos. Et en préparant cette émission, j'ai essayé de sourcer un peu les choses, j'ai essayé de voir d'où venait chacun des bruits. Et alors là, malheureusement, très souvent, on tombe sur rien du tout. Donc c'est très compliqué. Que sait-on concrètement de lui? Vous qui nous parliez justement de ce fameux fonds d'archives que vous avez pu consulter, Marie-Pierre Rey.
Oui, alors en réalité, le problème clé, c'est que tout ce que l'on sait tient en fait à quelques sources. Donc son identité, le fait qu'à partir de 1858, il s'installe dans la toute petite maison d'un négociant qui s'appelait Hromov et qui donc met à sa disposition cette maisonnette. Ça, ce sont des faits. On sait également que Hromov ensuite a donné à la cour, a donné au tsar régnant un certain nombre d'effets personnels qui avaient appartenu à Kouzmitch. Ça, ce sont les faits. Après, tout ce qui touche à l'ouverture de la tombe dans la période tsariste puis dans la période bolchevique, ce sont en réalité des éléments...
De la tombe, alors là, on ne parle plus de la tombe de...
Toujours de celle d'Alexandre, qui a été ouverte à plusieurs reprises.
C'est celle du tsar, là, c'est pas celle
du
Kouzmitch.
Tsar,
hein.
Voilà, celle du tsar. Donc,
l'officiel
serait vide. Donc, c'est quelque chose qui, évidemment, apporte de l'eau au moulin
de la
tête.
C'est moins qu'on puisse dire, quand même.
Le problème, malgré tout, et ça, j'ai essayé d'y travailler dans les archives, c'est qu'on n'a aucun document écrit aujourd'hui qui atteste que cette ouverture a réellement eu lieu. C'est-à-dire que à chaque fois, on a des sources orales.
Mais vous savez que nous faisions. Alors, vous êtes mieux placé que quiconque pour en juger, Marie-Pierre Rey. Mais nous faisions une émission sur Staline il y a quelques jours, et les historiens qui étaient là me disaient que pour la période stalinienne, on a très très peu de sources écrites. Tout se faisait par oral. Donc, c'est bien le problème.
Voilà, c'est le problème.
Alors,
voilà. Mais c'est ce qui pose un peu problème, puisque ce sont effectivement des sources orales, une tradition qui répète, ce qui ne veut pas dire que ce soit faux, mais nonobstant, on est coincé quand même pour aller jusqu'au bout de la démonstration, dans la mesure où un événement aussi extraordinaire que l'ouverture d'une tombe ne laissant pas de traces écrites...
Mais
Alors, si vous permettez, oui, pardon, en 1998, quand j'ai assisté à l'inhumation des restes alors identifiés de la famille impériale dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, une autorité ecclésiastique qui était proche du président Helsin est venue me voir et m'a dit « Regardez la tombe d'Alexandre Ier, on l'a ouverte plusieurs fois, en effet, elle est vide. » Et j'ai demandé les dates précises et là, contradiction. Donc en fait, il y a une sorte de, j'allais dire, de crainte et de malédiction. On ose et on n'ose pas tout à fait. C'est très russe, hein, il faut bien le dire.
Alors en même temps, ça supposerait, imaginons, allons un peu loin, imaginons qu'Alexandre Ier ne soit pas mort en 1825, qu'il ait mis en scène sa mort très loin de Saint-Pétersbourg pour pouvoir vivre sa propre... Parce que je pense que le but dans ce cas-là, ce serait de vivre une sorte de rédemption.
Absolument.
Il se sentait responsable de la mort de son père, une expiation, il fallait... Bon, si c'est le cas, imaginons que c'est le cas, ça voudrait dire qu'un certain nombre de ces proches immédiats sont, j'ai parlé de Volkonsky tout à l'heure, l'impératrice Elisabeth elle-même, la mère du tsar. Enfin, il faut que tout le monde soit plus ou moins complice.
Alors, en réalité, dès lors qu'il est parti à Taganrog, et ce qui est extraordinaire, c'est le choix même de Taganrog, parce que Elisabeth était souffrante, il a fait ce choix. Volkonsky, dans son journal, s'étonne de partir à Taganrog, dit mais quelle idée cette zone pleine de marais pour soigner l'impératrice. Donc c'est déjà quelque chose qui est assez étonnant, mais ça se justifie par l'éloignement. Alors dès lors qu'il est loin à Taganrog, il y a très peu de monde autour de lui en réalité.
Et d'autant plus que l'accès de la chambre est quasiment fermé, on l'a dit.
Voilà. Et de fait, Volkonsky est au courant, c'est sans doute la personne qui joue le rôle le pivot, les deux médecins, Vili Tarasov, de toute évidence, un certain nombre de proches, Elisabeth forcément. En revanche, Maria Fiodorovna, ce n'est pas sûr. Elle peut avoir été dans la confidence, d'où l'insistance sur le fait de dire «
C'est bien mon fils, je le reconnais.
» Elle a pu aussi être informée a posteriori par Volkonsky lui-même de ce qui s'était passé. Il n'est pas sûr qu'elle l'ait su en amont, à vrai dire. Il se peut, si on adhère à cette thèse, que ce soit Volkonsky qui ait apporté la nouvelle et, mise devant le fait accompli, elle aurait cautionné la thèse.
Mais quand même, pendant 11 ans, c'est-à-dire entre la mort officielle en 1825 et l'arrestation de Fyodor Kouzmitch, donc dans le tout près de Perm en 1836, ça aurait été le secret total. Mais parce que là, à l'époque, il n'y a pas encore de bruit. Si, d'ailleurs, il y en a quelques-uns au tout début, au moment où on rapatrie le corps.
Mais seulement après.
Mais Franck, imaginez la Russie, ses distances, des centaines, des milliers de kilomètres, je veux dire, surtout à l'époque, avec l'absence des communications, on n'est pas encore à Michel Strogoff et au Transsibérien. Donc, je veux dire, je pense, je ne sais pas ce qu'en pense Marie-Pierre, mais je pense que si le tsar était mort volontairement ou accidentellement à 20 km de Saint-Pétersbourg, cette affaire n'aurait pas existé, parce que ça aurait été plus simple. Là, nous avons, par l'éloignement, la clé d'un état mystérieux.
Reste à savoir pourquoi cet éloignement et quelle a été la motivation profonde du tsar d'aller justement à Taganrog, région lointaine, isolée et particulièrement malsaine quant à son climat.
Nouvel extrait sur Europe 1 du concerto pour harpe de François-Adrien Boieldieu.
Alors j'aimerais qu'on se penche un peu sur le cas de ce Fyodor Kouzmitch quand même. Donc ce personnage, ce starets dont on ne connaît pas du tout les origines, qui reste d'une discrétion extrême dès qu'on essaie de parler de sa jeunesse, qui peut être le tsar parce qu'il est grand comme était Alexandre, qu'il a les mêmes yeux bleus, qu'il est affligé de surdité. Ça c'est important, c'était le cas du tsar aussi.
À la surdité qui avait ralenti, disait-on, les travaux du congrès de Vienne, puisque le tsar ne comprenait pas tout. Mais ça lui permettait de se pencher sur la poitrine des dames, ça, il s'en était bien servi de ce handicap.
Oui, parce que pour lui faire
les
répéter,
entendre.
Oui, pour mieux les entendre. Il parlait par cœur, enfin tout à fait couramment le français, l'anglais. Il avait des connaissances étendues dans bien des disciplines. Ça est un peu étonnant pour un vagabond quand même.
Oui, ça n'est absolument pas normal. Effectivement, le tsar qui avait mis les Parisiens sous sa protection en 1814.
Il connaissait bien Paris d'ailleurs.
Paris. Alors donc, effectivement, comment un personnage pareil a-t-il pu, compte tenu de l'époque, des distances, avoir autant d'informations? Ça, c'est un des mystères.
Mais alors, ça veut dire aussi que s'il est vraiment mort, si c'est bien, pardon, Alexandre Ier qui est mort en 1864, il serait mort à 87 ans. C'est beaucoup quand même, non?
Oui, c'est mais ce n'est pas impossible à l'époque.
Oui. C'était une force de la nature, après tout, ce personnage. Alors, dans sa cellule, on va découvrir un certain nombre de... Enfin, sa cellule, dans cette espèce de cabanon où il vivait, oui. Pour être tout à fait clair. On va découvrir des éléments qui vont encore dans le sens d'une éventuelle survivance.
Alors, en particulier, une icône qui était recouverte d'un verre. Et quand on va enlever le verre, on va s'apercevoir que l'icône comporte la lettre A surmontée d'une couronne. Le monogramme du tsar. Et c'est un élément, effectivement, très, très, très troublant. Alors, je voudrais aussi mentionner, on a évoqué, vous avez cité la jolie formule hein, de Volkonski rapportant le propos du tsar, nos soldats servent 25 ans et de fait les années hein, du règne coïncident puisqu'il a régné de 1801 à 25, donc presque 25 ans. Et par ailleurs, à plusieurs reprises, dès 1819, il dit à son frère Nicolas, tiens-toi prêt, tu seras amené à régner plus tôt que tu ne le penses. Et là aussi, c'est quelque chose qui est assez, assez troublant.
Ça m'amuse parce que moi, qui n'ai pas les mêmes obligations que vous, Marie-Pierre Rey, évidemment, lorsqu'on accumule tous ces éléments, j'ai presque envie de rire et de dire, bon, ben alors, c'est une affaire pliée. Et néanmoins, nous sommes tous obligés de rester très prudents, évidemment. Je vous sens même assez circonspect, Jean.
Non, mais je trouve ça fascinant parce que si mise en scène il y a, elle est très réussie et elle a des, si je puis dire, des tiroirs en se prolongeant jusque dans la période bolchevique.
Mais en même temps, il peut y avoir eu mise en scène, puisqu'on se rend compte que lorsqu'on regarde les récits de la maladie du tsar par les quatre témoins, mais on a trois récits pour quatre témoins, les seuls récits qu'on ait de cette maladie sont totalement incohérents. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas du tout la même chose.
Il peut avoir été lui-même le metteur en scène, si j'ose dire, de cette énigme.
Je crois. Et d'ailleurs, il ne prenait pas de remède,
Vous l'avez très bien dit. C'est une punition, une expiation. C'est l'heure du châtiment. Peut-être qu'avec l'âge, le poids de ce parricide, de toute façon, qui est une horreur absolue, est devenu insupportable. Le poids des chagrins de la mort de ces trois filles.
Et en même temps, s'il simulait une maladie, on comprend qu'il n'ait pas pris de remède, hein, évidemment.
Oui, c'est évident. Je voulais simplement dire que c'était un homme inouï, parce qu'il avait quand même proposé à Napoléon, après 1815, de venir en Russie en disant « Sire, venez, vous serez traité selon les honneurs dus à votre rang, méfiez-vous des Anglais ». Et il n'avait jamais dit que Napoléon était un ennemi, mais un adversaire. Donc c'est assez intéressant.
C'est bien le terme qu'on emploie toujours, hein,
d'ailleurs. Nous sommes en 1818 quand le tsar se réjouit que ce soit un Français qui gagne le concours pour construire la cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg. Je veux dire, il dit l'animosité entre deux hommes ne doit pas s'étendre au peuple, ce qui est assez grand et généreux. Imaginez qu'en 1950, un architecte allemand ait gagné un concours pour construire une cathédrale à Paris. Vous imaginez. Alors je crois qu'il y a, quelqu'un qui a très bien analysé toutes ces contradictions, c'est Chateaubriand qui dit, je vous le rappelle juste, c'est très rapide, une phrase admirable, il était trop fort pour employer le despotisme et trop faible pour établir la liberté. Donc dans le fond, cet homme, y compris dans sa vie, est tout le temps entre deux décisions, deux états d'esprit, choisir entre son âme et son caractère. Je ne sais pas si nous aurons la clé, mais on voit qu'on avait les éléments posés d'une énigme.
Vous me donnez en tout cas une idée d'émission d'énigme de nouveau, Jean Descartes. C'est la raison pour laquelle Napoléon n'a pas accepté l'invitation du tsar. Ça aurait sans doute, pour lui, été une solution bien préférable à cet exil.
Il craignait le climat russe, l'île d'Elbe quand même.
Il l'ignorait.
Vous savez qu'à dans le mémorial de Sainte-Hélène, Napoléon dira « Oui, au fond, s'il règne, s'il continue, Alexandre, il sera mon héritier. »
Si je meurs ici, il sera mon seul et véritable héritier en Europe.
C'est étonnant la relation entre ces deux souverains. Oui. Alors, évidemment, la solution, ce serait de prendre, parce si la tombe de l'empereur est vide, celle de Fyodor Kouzmitch, en revanche, est toujours, il y a toujours son corps. Et donc, on pourrait évidemment passer par la fameuse étude ADN. Mais moi qui passe ma vie à lutter contre ces analyses ADN, je ne vais pas, parce qu'on sait ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'une fois de plus, le problème de l'ADN, c'est que sur un plan
scientifique, c'est absolument pur et parfait, c'est incontestable. Mais il y a derrière tout le travail que peuvent faire les services secrets, que peuvent faire les influences politiques, etc. La préparation.
Oui,
et on ne sait jamais à partir de quels éléments vont travailler
puis,
les scientifiques.
Ce serait plus grave, nous ne pourrions plus faire des missions.
On n'aurait plus de semaine spéciale sur Europe 1, ce serait épouvantable. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Jean Descartes, La saga des Romanov, de Pierre le Grand à Nicolas II. C'est édité chez Plomb et c'est réédité, évidemment, en collection de poche. Et puis, de Marie-Pierre Rey, L'Alexandre Ier, dans la collection Grande biographie de Flammarion, qui s'achève par donc cet épilogue où est traité dans le détail l'énigme qui vient de nous occuper. Vous aurez compris que j'ai ma petite idée sur la question, mais vous aurez aussi admis que je ne l'ai pas formulée clairement à ce micro.